Aujourd'hui, c'est la commémoration des fidèles défunts, ce qu'on appelle plus communément la fête des morts, quoi. Mais sont-ils vraiment morts? Ils ne sont pas morts, hein? Ils sont toujours vivants. Ils sont vivants, mais attendent, dans un moment de purification, de paraître dans cette grande lumière enveloppante au paradis, avec tous ceux qu'on a célébrés hier, tous les saints. C'est ce qu'on appelle l'Église souffrante. On nous enseignait ça quand j'étais jeune. Hier, c'était la fête de l'Église triomphante. Aujourd'hui, la fête, oui, de l'Église souffrante. Et nous, nous sommes l'Église militante, mais le sommes-nous vraiment? Mon Dieu. Des fois, je me demande, hein, surtout en cet anniversaire du décès de Léon Blois, dont je compte vous parler. N'ayez pas peur, Léon Blois était tout près de la sainteté s'il ne l'était pas. Et vous le verrez tout à l'heure. Quel homme, quel écrivain extraordinaire, et je tiens à en parler parce que c'était un des écrivains que ma mère préférait. Elle aimait lire le Léon Blois. Elle avait lu Le mendiant ingrat, La femme pauvre, quelques autres livres, probablement Le salut par les Juifs. Et c'est vraiment touchant que de lire Léon Blois, mais ça secoue. C'est un prophète. Il est un peu comme ceux de l'Ancien Testament qui disent des choses parfois qui sont très audacieuses. Et comme Jésus lui-même qui traite les pharisiens de sépulcres blanchis. Jésus n'avait pas la langue dans sa poche, comme on dit. Jésus, oui, Jésus, le doux Jésus, pouvait se tenir et dire vraiment ce qu'il pensait. Et aujourd'hui, nous allons prier dans l'Église d'Occident, plus particulièrement parce que l'Église byzantine célèbre plutôt ce qu'on appelle la commémoration des morts le samedi précédent, le huitième dimanche avant Pâques, hein, qui marque pour elle le début du carême. Et c'est ainsi que c'est pas tout à fait la même chose chez nous. Dans notre immense Église occidentale, qui a, mon Dieu, près d'un milliard et demi, en principe, de baptisés ou de fidèles, bien souvent infidèles, malheureusement. Et donc, la commémoration des fidèles défunts, c'est ce jour où l'on prie pour les morts de façon plus particulière, ce que l'on fait tous les jours de toute façon, et à chaque messe qui est célébrée, il en est question. Il met toujours, à la messe chaque jour, ça met toujours un tourment et en même temps une joie que de prier pour mon père et ma mère, pour mon fils décédé, pour mon frère et ma belle-sœur que j'ai tant aimé, Louis et Juliette, et pour prier pour le pauvre père biologique de mon fils que j'ai à peine connu quand nous l'avons retrouvé, et puis pour tant d'autres et nos ancêtres et des gens que j'ai connus. C'est l'occasion à chaque messe de se remémorer des gens que l'on aime et on prie pour eux. Parce que la croyance au purgatoire et à l'efficacité de la prière, pour hâter en quelque sorte, si on peut dire, la purification des âmes, des défunts que nous aimons ou que nous ne connaissons pas, ça suffit, n'est-ce pas, à expliquer cette fête d'aujourd'hui et les prières pour les morts à toutes les messes. En dehors des enterrements puis des anniversaires particuliers, les chrétiens, au début, priaient pour tous les morts, afin que ceux qui n'avaient laissé sur terre ni parents, ni enfants, ni amis, bien ne soient pas délaissés. Et saint Augustin, d'ailleurs, mentionne cet usage, et il loue, c'est très sympathique, la bonté de l'Église, qui est la mère de tous les fidèles. L'Église est comme une mère qui prie pour ses enfants qui attendent, qui se purifient. Et il était normal, évidemment, d'attribuer un jour dans l'année, un jour particulier à ces prières solennelles. Et alors, comme je vous ai dit, bien, dans l'Église byzantine, c'est le samedi précédent, le huitième dimanche avant Pâques. Et en Occident, bien, la coutume de consacrer un jour à la prière pour les défunts était à peu près générale, dit-on, dans les monastères dès le VIIe siècle, il y a donc 1300 ans, et peut-être presque 1400 ans, mais Les jours étaient variables. Il s'agissait avant tout de prier pour les frères moines décédés. Certaines églises dans le monde, les églises séculières, comme on dit, les paroisses, si vous voulez, avaient des coutumes qui ressemblaient beaucoup à celles des moines. C'est l'abbé de Cluny, ce grand monastère de Cluny, dont je compte vous parler un jour lorsqu'on célébrera l'un des quatre grands saints abbés de Cluny. Et c'est l'abbé donc de Cluny, saint Odilon, qui a décidé que, comme on célébrait par toute la terre, au calendrier de novembre, la fête de tous les saints, c'est-à-dire le 1er novembre, on célébrerait de même dans les monastères de l'ordre de Cluny, qui étaient innombrables. Il y avait des milliers de monastères attachés à l'abbaye de Cluny, hein, qui était en France. Eh bien, on célébrerait la commémoration de tous les fidèles défunts depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Et il a établi que ce serait le lendemain. La coutume de Cluny s'est répandue lentement. Elle n'est devenue à peu près générale qu'au XIIIe et XIVe siècle. Et maintenant, nous passons à Léon Blois. Léon Blois, dont c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui. Je tiens à vous en parler. Je vous l'ai dit tout à l'heure parce que non seulement ma mère l'aimait beaucoup, mais dans ma jeunesse, on lisait beaucoup Léon Blois parce qu'il était fulgurant. C'était un catholique étonnant, mais c'est un converti, hein. Il appartenait à une famille de garçons, 6 garçons. Et son père, qui était conducteur des ponts et chaussées à Périgueux, c'est beau Périgueux, il faut voir des vieux bâtiments religieux à Périgueux, c'est assez étonnant ce qui reste de la très ancienne architecture chrétienne. Bien, il était là, travaillait là, à Périgueux, sous le règne de Napoléon III. Hein, c'est pas d'aujourd'hui, puisque Léon Blois, son fils, son deuxième fils, est né en 1846. Et il est mort le 2 novembre en 1917. Tout marchait comme à la caserne dans la famille des Blois. On se levait tôt le matin, on se couchait tôt le soir, et après la prière des enfants, on se couchait. C'était la messe obligatoire le dimanche. Vraiment obligatoire, il fallait suivre. La mère était exigeante, mais bonne et intelligente, c'était la coutume de l'époque. Et même le père exigeait ces choses-là. Mais c'était un père très particulier. Léon Blois est donc devenu un grand écrivain catholique, c'est pas surprenant, mais c'est après bien des tourments. La formation religieuse de ce jeune Léon Blois a été en somme tout extérieure, quasi nulle finalement. Comme souvent la formation chrétienne que l'on donne ici même à nos enfants. C'est extérieur. Ça n'a pas de profondeur. Et à 14 ans, il était très rusé. Il déjouait les soupçons de ses parents. Il allait fumer des cigarettes au bord de l'eau alors qu'on le croyait à l'église pour la messe du dimanche. Comment prendre d'ailleurs pour lui au sérieux une religion que son propre père lui imposait, mais qu'il ne pratiquait pas? Vraiment pas. Nous retrouvons ici donc le drame de tant de familles dans la seconde moitié du 19e siècle et qui est le drame de tant de familles même aujourd'hui, spécialement ici au Québec. Hein. Parce que son père était plutôt incroyant, mais sa mère profondément croyante, très éclairée d'ailleurs. C'était un état de choses qui semblait entrer dans les mœurs à l'époque. Et moi, j'ai grandi dans un foyer assez semblable à ça. Ma mère était si croyante que, à peu près à compter des années 40, elle récitait prime et complie dans un petit livre de prière, comme les moines, et puis elle lisait des ouvrages comme Léon Blois et Claudel et des choses comme ça. Elle avait une certaine instruction, même une assez bonne instruction pour l'époque. Hein. Elle fait ses études au couvent de la Chine chez les Sœurs de Sainte-Anne, et ensuite elle avait étudié un peu de philosophie vers 1908, 1909, 1910 chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame. Quant à mon père, lui avait dû quitter ses études assez tôt, parce que mon grand-père avait tout perdu, et mon père a dû se mettre à travailler assez jeune dans une fabrique de tabac. Et alors, on élevait les enfants chrétiennement jusqu'à leur première communion, comme on fait aujourd'hui. Vaille que vaille. Et la cérémonie accomplie, Mais les garçons cessaient de pratiquer. Comme aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus de jeunes garçons dans nos églises. Et les filles, elles continuaient de suivre leur mère à l'église. Mais aujourd'hui, même les filles ne suivent pas beaucoup. Le contraire eût été d'ailleurs très mal vu. Madame Blois, qui n'avait pas de fille, elle a eu la douleur de voir presque tous ses fils devenir des indifférents. Et qu'on se mette à la place du petit Léon Blois. Il aimait bien sa mère, mais il admirait encore plus son père. Il avait bien raison. Ce bon fonctionnaire était un parfait honnête homme. Comme mon père, moi, c'est exactement la même chose, c'est très curieux. Et en même temps, la bourgeoisie commençait à cette époque-là à limiter les naissances. Et lui, il s'était donné beaucoup de mal pour bien élever 6 enfants. Monsieur Blois croyait en Dieu. Il admirait, pratiquait la morale de Jésus-Christ. Mais, comme mon père, il détestait l'Église et les prêtres. Il les trouvait plats, presque inutiles. Mon père en avait contre le clergé séculier de façon terrible. J'ai grandi à côté du collège Stanislas, qui venait de se fonder par des prêtres séculiers. Il ne voulait absolument pas que j'aille là. Il fallait que je marche jusqu'à Brébeuf, c'était très loin, pour aller chez des jésuites. Là, il acceptait. Alors, dans cette famille, bien, on partageait de plus en plus les préjugés anti-religieux de l'époque. On revenait toujours sur l'Inquisition, sur le fameux Torquemada, l'inquisiteur, le grand inquisiteur, etc., Galilée, comme ici, n'est-ce pas? On revient toujours sur ces questions-là. Mais je vous en parler, je vous le promets, de l'Inquisition, puis de Galilée un jour. Les dates s'en viennent. Le père était franc-maçon, comme beaucoup de ses collègues, et dès que Léon Blois eut un peu de raison, ben, il observait, il a tiré la conclusion. Pour lui, la religion, il était tout jeune, était une chose désuète. Bon, respectable peut-être, mais contestable sur bien des points. Mais qui était surtout l'affaire des enfants puis des femmes. Et sa mère, qui était une femme intelligente, comme je vous ai dit, elle lisait quoi? Bien, elle lisait l'Imitation de Jésus-Christ, elle lisait Saint-Augustin, elle lisait l'Histoire de l'Église. C'était une femme fort bien. Ça rappelle ma mère aussi qui lisait des choses un peu comme ça. Et ça fait curieux d'avoir vécu ça. J'ai jamais eu le sentiment au cœur de Léon Blois quand même. Et puis, sa mère n'avait pas le temps matériel de s'occuper de l'âme de ses 6 garçons, surtout des aînés. Je vous ai dit que Léon était le second, hein. Alors, elle les a envoyés chez les frères de la doctrine chrétienne, puis ensuite au catéchisme, espérant que le clergé, puis les frères, pourraient prendre en main leur éducation religieuse. Et voici comment, dans un ouvrage de Léon Blois qui est très connu, Le Désespéré, d'un roman autobiographique, Léon Blois évoque l'éducation qu'il a reçue. Je vous lis pas tout parce que c'est très, très dur, mais je lis ce petit passage. « Aucun débitant de formule ne s'étant avisé de s'enquérir de son cœur, ou de mon cœur, si vous préférez, parce qu'il parle de lui-même à la troisième personne, hein. Donc, aucun débitant de formule ne s'étant avisé de s'enquérir de son cœur, le pauvre enfant n'avait pu rien garder de ce pain mal cuit et, comme tant d'autres, l'avait presque aussitôt revomi. » Quel langage! Il utilise des mots très durs. Hein. Ce sont des lignes dures, irrespectueuses, ce sont excessives. Mais le fait est que le clergé, qui étaient très fonctionnarisés. Qu'il suffise de lire « Les fonctionnaires de Dieu » de Drewermann. Je vous recommande pas nécessairement la lecture d'Eugène Drewermann, ce prêtre allemand qui fait tant parler de lui par ses 10 livres, où dans plusieurs, il s'attaque, un peu comme Léon Blois, à des choses pénibles dans notre Église. Et dans « Les fonctionnaires de Dieu » que j'ai lu, il s'attaque très fortement au clergé et à des tas de croyances de notre foi la plus profonde, que ce soit l'Eucharistie, la Vierge Marie, on ne lit pas ça sans avoir beaucoup de chagrin à certains moments. Du moins, c'est ma réaction personnelle. Alors donc, ce clergé fonctionnarisé du 19e siècle en France était loin de valoir celui que nous avons connu. Dans mon enfance, j'ai connu un clergé qui n'était pas si fonctionnarisé que ça, qui était à la paroisse Sainte-Madeleine, en tous les cas, ils étaient formidables, les prêtres que nous avions. J'en nomme l'abbé Bouchard, l'abbé Barrette, des hommes de cœur, des vrais prêtres. C'était des prêtres soucieux d'œuvre, d'apostolat, qui était penché sur les jeunes. Je me souviens que ces deux prêtres venaient souvent jouer au ping-pong chez nous. Nous étions quatre garçons. Et leur présence en soutane, leur sourire, leurs petits cadeaux, leur intelligence, leur accueil, leur foi profonde, ça nous touchait profondément. Nul prêtre s'est occupé de notre petit garçon Léon Blois, qui était silencieux et timide. Pourtant, l'avenir va le montrer, Léon Blois n'attendait qu'une parole de compréhension et de bonté pour s'épanouir dans la foi. Et Léon Blois sera toujours dur dans ses jugements sur le clergé. Il va scandaliser par son ton cavalier, son insolence, mais bien souvent, hélas, ses critiques seront pertinentes. Les prêtres s'étaient endormis dans leur routine. À l'heure où le monde se transformait, faut pas oublier qu'il y avait le cri de ce merveilleux pape Léon XIII dans ce temps-là, dans son encyclique Rerum Novarum. Ça en avait secoué beaucoup de prêtres de leur torpeur, heureusement. Et les invectives de Léon Blois, qui n'a jamais oublié son enfance délaissée, sont à cet égard plutôt désagréables, mais elles ont été fort utiles. Beaucoup de prêtres, en lisant Léon Blois, en s'ouvrant le cœur, ont retrouvé le sens profond de leur sacerdoce. Et Léon Blois a travaillé, quand il était jeune, assez mal au lycée. Son père, qui n'avait pas de grosses ressources, l'en a retiré plutôt rapidement. Il a gardé à son bureau pour lui apprendre le dessin industriel. Alors, on construisait alors des voies ferrées, des gares, des viaducs, des usines, des ports. Hein. C'était l'industrialisation. Il y avait besoin d'ingénieurs, d'architectes, et on était moins férus de diplômes qu'aujourd'hui. Alors, un garçon travaillait bien, pouvait se faire une bonne situation. Et à 18 ans, Léon Blois est parti pour Paris. C'était un jeune homme de taille moyenne, teint brun, pâle quand même, sombre, timide, mais il avait les yeux bleus, qui viraient au noir quand il était mécontent, et son père lui avait trouvé une place de commis architecte. Ah, mais Léon Blois aurait voulu être peintre, lui, poète, écrivain, artiste. Il s'est révélé assez vite un employé vraiment médiocre, alors très vite aussi, il a cessé de pratiquer une religion à laquelle il ne tenait pas, et seul dans Paris, il a pris de mauvaises habitudes, la paresse, les dépenses, des aventures banales, c'est ce qui arrive souvent, hein. Nul principe religieux ne pouvait le retenir. Et tout le monde agissait ainsi autour de lui, hein? Nul. Personne n'avait le sens du péché. C'est comme aujourd'hui. Il faut bien que jeunesse se passe. Hein? On dit ça encore aujourd'hui. Il faut bien que jeunesse se passe. C'est les vieux hypocrites qui disent ça, en songeant à leur passé où ils se sont tout permis. Mais ils devraient se souvenir que quand ils se sont tout permis, ils étaient non seulement dans la boue, mais ils s'ennuyaient. Ils avaient du dégoût. Mais le dégoût allait grandissant et va grandissant jusqu'à 40-50 ans. J'ai tous ces gens qui vivent comme ça. Alors, jeunesse, donc, se passa bien tristement pour Léon Blois. Et jour après jour, il perdait confiance en lui-même. Il devenait un raté. Et son père, désespéré, lui écrit des lettres où il ne ménageait pas ses mots. On sent le déchirement d'un vieil homme impuissant. Et sa mère, plus clairvoyante, elle s'efforçait de le réconcilier avec Dieu. Elle sentait bien que ce fils, Léon, très aimé, avait soif d'absolu, mais que l'orgueil l'empêchait de voir clair. Il jugeait pas sainement une religion que elle aimait. Et cette simple femme savait que Ernest Renan, dont je vous parlerai aussi un jour, mais il est si loin d'être un saint, que Ernest Renan, tous les esprits forts de l'époque, se trompaient quand ils annonçaient la disparition prochaine du christianisme. Mais comment faire comprendre cela à un jeune homme qui, de jour en jour, devient de plus en plus amer. Et au lieu de travailler, Léon Blois rêvait. Il lisait des livres incendiaires, et au lieu de commencer par se réformer lui-même, il s'en prenait au tard d'une société qui était avide de richesses et de jouissances. Alors, il a perdu sa situation, il a végété, puis est tombé dans la misère, et à la grande horreur de ses parents, Léon Blois s'est proclamé socialiste. À l'époque, là, ça faisait scandale. Alors, par tempérament, c'était un solitaire. Le plus clair de son socialisme, ça a été quoi? Un anticléricalisme violent. Une haine profonde de l'Église catholique, en laquelle il voyait le soutien des exploiteurs. On entend les mêmes choses aujourd'hui. encore aujourd'hui sur les ondes, j'entends ces choses-là, ça me fait bondir intérieurement. Voici comment il jugeait plus tard ses années de révolte, quand il a compris. Il écrit « Je perdis la foi de bonheur. L'extrême furie des passions naissantes avait tout emporté. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi, pendant lesquelles l'orgueil, la sensualité, la paresse, l'envie, le mépris, la haine la plus féroce s'accumulèrent en moi et grandirent jusqu'au paroxysme. Il y eut un moment, la haine de Jésus et de son Église devint l'unique pensée de mon cœur. » C'était en moi la passion la plus intense et la plus fougueuse. C'est pas de la littérature, hein? Léon Blois a été animé de cette haine dévorante. Et là où sa mère, Madame Blois, avait échoué, eh bien, c'est un écrivain qui va réussir. C'est pas n'importe qui. C'est curieux, Léon Blois avait toujours eu le goût de la littérature. Il voulait devenir un écrivain. Il admirait les grands hommes, et un jour, il a vu passer Barbé de Révillé, qui était catholique malgré sa vie plus ou moins étrange. Un catholique convaincu, ça existe, hein, des catholiques convaincus qui ont des vies plus ou moins curieuses, en tous les cas. Barbé de Révillé se promenait l'œil fier. C'était un écrivain très réputé. Il avait la moustache superbe, n'est-ce pas? Il avait une belle redingote, et puis le col laissait voir sa cravate de dentelle. Léon Blois s'est précipité à sa suite. Barbé de Révillé lui demande « Que désirez-vous, jeune homme ?» Et Léon Blois lui répond « Vous contemplez. » Alors, pour quelqu'un qui est un peu orgueilleux, c'est très touchant. Alors, Barbé a été touché par cette admiration un peu naïve. Ce fut le début d'une amitié fidèle qui a duré jusqu'à sa mort. Hein. Enfin, Léon Blois avait quelqu'un à aimer, quelqu'un appelé maître. Et précisément, Barbé de Révillé était l'instrument choisi, si on peut dire, pour mener notre jeune Léon Blois révolté aux pieds de son véritable maître, Jésus-Christ. C'est pas que Barbé, je vous l'ai dit, était un chrétien exemplaire. Bon, sa vie privée n'était pas sans reproche. Il faisait pas ses pas. Mais il avait une foi robuste quand même, et chaque dimanche, il se rendait à une messe tardive. Il avait sa canne et ses gants à la main, un énorme missel sous le bras. Il suivait sa messe. Il communiait pas. Le Seigneur emploie tous les moyens lorsqu'il veut conquérir une âme. Et en face d'un interlocuteur de cette taille, bien, l'espèce de socialisme anarchique de Léon Blois est disparu. Barbé de Révillé tenait pour la tradition, pour le trône imaginé et pour l'autel dont il exaltait les mérites. Il avait une conception grandiose de l'Église. Il savait magnifiquement évoquer les grands papes. Il parlait de Grégoire VII. Innocent III, Boniface VIII. Puis avec grande stupeur, Léon Blois a découvert qu'il avait vécu jusqu'ici sur des préjugés grossiers. L'Église avait fière allure, tout à coup à ses yeux. Il a eu envie de pratiquer la religion de M. Barbé de Révillé, qui était celle aussi de sa mère, et l'heure de Dieu était proche. Alors pendant un an, Léon Blois hésitait, il essayait de se raccrocher à des convictions qui s'effritaient une à une. Puis enfin, il a cédé à 23 ans, 1869, le jour de la fête de Saint-Pierre, premier pape, le 29 juin, dans l'église Sainte-Geneviève, qui est devenue aujourd'hui le Panthéon. Hein. Eh bien, la grâce a été plus forte que tout. Il s'est confessé, entré dans un confessionnal. Pas facile, ça, pour un jeune homme de 23 ans qui détestait les prêtres. Puis il est entré de son plein consentement dans l'église qu'il avait abandonnée quelques années plus tôt. C'était une conversion véritable, plus qu'un retour à la foi, car, je vous l'ai dit, Léon Blois, enfant puis adolescent, avait subi une espèce de religion tout extérieure. Il n'avait jamais assumé cette religion-là. Léon Blois ne nous a jamais fait d'ailleurs le récit de sa conversion, mais dans « La femme pauvre », que ma mère avait tellement aimé ce livre, très émouvant dans sa violence, ce passage-là ne peut pas avoir été écrit par quelqu'un qui a connu une grande conversion. Il écrit, le mot d'ailleurs si prostitué de conversion n'exprimait pas bien sa catastrophe. Il avait été pris à la gorge par quelqu'un de plus fort que lui, emporté dans une maison de feu. On lui avait arraché l'âme et broyé les os. On l'avait écorché, brûlé. on avait fait de lui un mastic, une espèce de chose argileuse, qu'un ouvrier, Dieu, doux comme la lumière, avait repétri. Ensuite, on l'avait jeté la tête en avant dans un vieux confessionnal dont les planches avaient craqué sous son poids. Et tout cela s'était accompli dans un même instant. Alors, c'est impossible d'exprimer l'inexprimable, évidemment, et chacun se sert des mots et des images qu'il peut trouver, et Léon Blois trouve celle-là. Il faisait rien à moitié, Léon Blois, puisqu'il s'était tourné vers Dieu. Il tournerait les autres vers Dieu. Il les convertirait à son tour. Et notre jeune socialiste de la veille est devenu le plus ardent des convertis. Il a écrit de longues lettres à tous ceux qu'il voulait toucher. De longues lettres où il prêchait, de façon bien maladroite, mais il était sincère. Depuis, son style s'est affirmé. Il a maîtrisé peu à peu sa langue. Et emporté par ses convictions, il est devenu un écrivain. Et sont venus les jours de 1870, la guerre. 5 frères Blois sur 6 se sont engagés. Le 6e pouvait pas, il avait 11 ans. Monsieur Blois, le père, veut être fier de ses garçons. Léon était prêt à mourir pour la France, et dans un même amour, il unissait sa patrie envahie, l'Église méprisée, et le pape qui était humilié à Rome. Et voici en quels termes le nouveau converti écrit à un prêtre de Périgueux: « Je crois à la toute-puissance de la prière, et les autres actions humaines me paraissent un affreux néant. Ne pensez-vous pas, comme moi, que l'heure suprême est arrivée? Je vois une troupe d'incomparables martyrs tracer de leur sang la grande route surnaturelle qui ramènera à Dieu cette pauvre Europe égarée. Et 20 mois auparavant, ce même homme croyait détester l'Église. Qui ne verrait là une éclatante conversion? Quand Blois écrit, vous verrez que le christianisme renaîtra de quelque sublime violence surnaturelle qui nous brisera le cœur d'admiration. Ah, c'est véritablement quand l'Église souffre qu'on peut dire qu'elle triomphe et jamais tant souffert. Dieu réservait à Léon Blois de terribles épreuves, et à 31 ans, à l'heure où ses amis s'attendaient à le voir partir pour un monastère comme peut-être Saint-Vendry ou Solesmes, eh bien, Léon Blois a été repris par le vertige de la chair. Il a rencontré une étrange bonne femme, Anne-Marie Roulet, qui était une fille publique, quoi, qui est devenue sa maîtresse, et coup sur coup, comme par un châtiment quelconque, son père et sa mère sont morts. Et là, il a eu des remords terribles. Il a fait des efforts héroïques, hein, pour se dégager de tout ça. Il s'est enfui par 2 fois au fameux monastère de la Trappe, la première Trappe, là, où l'abbé de Rancé a réformé les cisterciens. Ces séjours-là ont eu lieu en 1877 et 1878, dès le début de cette espèce de chute. Il implorait l'aide de Dieu, mais sa situation restait sans issue, alors il y avait des chutes, des rechutes. Et Léon Blois se retrouvait toujours en larmes. Son idéal était saccagé, et soudain, mais les événements ont changé. Anne-Marie Roulet est devenue une chrétienne fervente. Elle s'est mise à méditer la Bible. Oui, oui, méditer la Bible. Elle n'était pas protestante. Elle était catholique. Je reviens toujours là-dessus. Hein. On pense toujours que les catholiques connaissaient jamais la Bible. Et puis, elle suivait les méthodes que Blois avait apprises à la Salette de l'abbé Tardif de Moidray pour lire la Bible. Elle a cru recevoir des révélations de Dieu. C'était passé d'un danger à un autre, bien plus redoutable. Et son épreuve devenait plus torturante, si on peut dire. Et chose plus grave, il y a l'écrivain catholique Ernest Hello, à qui Blois se confiait comme à un aîné. Mais il s'exaltait à son tour. Il le poussait à obtenir de Dieu des signes. Parce que Ernest Hello avait des drôles d'idées, des fois. Et en 1880-81, ça a été une année de surexcitation. On attendait la fin du monde. Comme aujourd'hui, ça ressemble donc, l'histoire se répète continuellement. On attendait l'avènement de Jésus-Christ dans sa gloire, la manifestation du Saint-Esprit, puis on était toujours déçus, évidemment. Quand je pense qu'autour de moi, il y a des gens qui me parlent toujours de ça, Jésus s'en revient, le Saint-Esprit va s'emparer du monde, il y a des catastrophes en 96, etc. Là, là, là. En juillet 1882, eh bien, Anne-Marie Roulet est devenue folle. Elle est internée pour le reste de ses jours et Léon Blois s'est cru abandonné de Dieu. Et courageusement, il a réagi. Il s'est réfugié, comme j'ai fait aussi, à la Grande Chartreuse. Et là, les religieux se sont montrés très bons. Vous savez que les religieux chartreux, pour rester là, il faut être ou fou ou extrêmement intelligent. Mais je crois qu'ils ne sont pas fous. Ceux que j'ai connus, moi, étaient brillants et remarquables. Ça prend un grand équilibre. Alors, ils ont déconseillé à Léon Blois la vie contemplative. Ils l'ont encouragé à devenir un écrivain de combat. Quelle lucidité de la part d'ermite, hein? Et Léon Blois est parti à l'attaque des ennemis de la religion. Il craignait pas les coups. Il s'est attaqué à Jules Ferry, à Gambetta, à Émile Zola, à Ernest Renan, même au bon vieux Victor Hugo, même aux frères Goncourt, qui ont déjà écrit un assez beau livre sur la Sainte Vierge, et bien d'autres qui ont été rossés. Il les a conspués d'une telle manière dans des pages indignées qu'on a considéré que sa violence était exagérée. Les descriptions étaient terribles, son vocabulaire étourdissant. C'est devenu célèbre. Lorsqu'il s'agissait des hommes les plus puissants et les plus redoutables, il y a un Léon Blois ne craignait pas d'employer des épithètes encore plus audacieuses, les mots les plus gros et les plus crus. Il n'y allait pas de main morte. On a ici des écrivains qui écrivent parfois des choses très dures, hein, sur la politique, sur ce qui se passe. On a des tonitruants aussi à la radio privée. Il y a quelqu'un qui a déjà gagné le prix du gouverneur général, Jean Larose, qui a écrit dans La souveraineté rampante des choses très dures à l'égard de certaines personnes. Mais Jean Larose n'est pas catholique. Les catholiques étaient déconcertés, ahuris par cet ancien converti. Et au lieu d'adopter un beau style catholique et correct, qui convenait à des gens bien, comme les grands catholiques Montalembert, Monseigneur Dupanloup, Louis Veuillot, mais il roulait ses adversaires dans la boue. Léon Blois, décidément, était un homme impossible. Il respectait rien. Il critiquait l'art catholique de l'époque, l'art de Saint-Sulpice. Il critiquait les pieuses initiatives des bonnes gens qui offraient des statues à leurs églises paroissiales. Il était irrévérencieux. Il parlait des boutiques où on vendait l'art religieux dans le quartier de Saint-Sulpice, de l'église Saint-Sulpice, où est né Montréal, et où on a décidé de fonder Montréal. Et puis là, bien, il s'est plein de boutiques d'art religieux. Il disait « Aujourd'hui, le sauveur du monde crucifié se tord correctement sur de délicates croix dans une nudité d'hortensia pâle ou de lilas crémeux. C'est du genre italien, affirment les marchands de mastic. » Il est très violent. Hein? La littérature catholique écope aussi. Voici comment Léon Blois parle de quelques livres dévots qui ont connu du succès à son époque. La bêtise de ces ouvrages correspond exactement à la bêtise de leur titre. Et le clergé, il l'épargne pas non plus. On sent toujours chez Léon Blois une espèce d'amertume, de celui qui a pas trouvé accueil de la part du prêtre, jadis. Et l'amertume du converti, que l'on regarde de travers parce que ses paroles sont souvent bien déplacées. Et parce que surtout, on trouve en lui un vivant reproche. Il écrit d'ailleurs, c'est terrible ce qu'il écrit, « On vous demande, messieurs les successeurs des apôtres, de ne pas dégoûter le pauvre qui cherche Dieu, de ne pas détester les artistes et les poètes, de ne pas envoyer au camp ennemi, à force d'injustice, de déraison et d'ignominie, celui qui ne chercherait pas mieux que de combattre à côté de vous et pour vous, si vous étiez assez humble pour le commander. On demande des prêtres. » Il s'écriait souvent ça. On demande des prêtres. C'est son style, Léon Blois. C'est un chrétien mal à l'aise parmi les catholiques. C'est un fils mal satisfait de l'Église, qui proteste, qui supplie, qui accarre, qui voudrait chose impossible que tous les catholiques soient des saints. Il voudrait que tout le monde soit des saints. Et lors de sa conversion, l'Église lui est apparue si belle, si pure, si éblouissante, qu'il n'a plus voulu voir qu'elle était formée d'hommes, de pauvres hommes, bien souvent inférieurs à leurs tâches. Et c'est normal. N'attendons pas outre mesure des saints de l'Église. Prions pour qu'il y ait plus de saints, mais sachons accepter l'inévitable. Lui-même se sentait inférieur d'ailleurs à sa tâche. Au cours de ces années où il a beaucoup souffert, bien Léon Blois est retombé à plusieurs reprises dans le péché, comme on dit. Comme Job, il a hurlé sa souffrance sur son fumier. Il a continué à garder une foi d'enfant et à espérer contre toute espérance. Une vie comme ça, ça pouvait pas durer. En 1889, à 44 ans, Léon Blois était en passe de devenir, comme Verlaine, dont je vous parlerai aussi un jour, une épave. Paul Verlaine, un grand poète. L'alcool, qui faisait tant de ravages chez les écrivains d'alors, le guettait, et son mariage l'a sauvé de la vie de bohème. Ça lui a permis d'écrire environ 30 volumes, dont la moitié sont de premier plan. Et un jour, chez une amie de Barbet de Rivilly, bien une jeune Danoise, Jeanne Molbech, a rencontré Léon Blois et a été bouleversée, tant par son aspect là, que par sa conversation. Et quelque temps après, elle l'a retrouvé chez le poète François Copé. Et au moment de le quitter, mais cette luthérienne du Danemark, eh bien, qui était une femme sincère, n'a pas pu s'empêcher de lui faire la remarque suivante. « Comment cela se fait-il, monsieur, que vous, un homme supérieur, vous soyez catholique ?» Quelle réponse il lui donne? Il dit « C'est peut-être à cause de cela que je le suis. » Quelle belle réponse! Quelle belle réponse! Ah, c'est audacieux! Il faut avoir une grande humilité, avec beaucoup de fierté. Enfin, le préjugé, on le voit, était fort. Hein? Être catholique, c'était une faiblesse que l'on tolérait à peine chez quelques personnes. Un professeur qui pratiquait avait en quelque sorte à se faire pardonner un certain ridicule, comme on dit. C'est comme ça. C'est comme ça encore aujourd'hui, ici, et par amour pour Léon Blois, par désir de la vérité, par soif de Dieu, bien Jeanne Molbech n'a pas hésité à se convertir. Elle a été une convertie par amour, aux deux sens du terme, amour de Dieu, amour humain, aussi intimement confondu. Et les étapes de cette conversion sont marquées dans son admirable recueil des lettres à sa fiancée, où Léon Blois se montre sous son jour véritable de douceur et de tendresse. Le 19 mars 1890, Jeanne Molbech devient catholique. Le 27 mai, elle épouse Léon Blois. Leur foyer est admirable. À 44 ans, donc, au contact de cette femme d'esprit de cœur, Léon Blois a repris l'habitude d'une vie disciplinée, des pratiques régulières, et tous les matins, on l'a vu à la messe, priant avec ferveur et communiant avec beaucoup d'amour. On n'était pas habitué à la communion fréquente dans ce temps-là, mais c'était pourtant la force de Léon Blois. Et jusqu'à sa mort, Léon Blois a connu la misère, une misère accrue après son mariage, de celle évidemment de sa femme et de ses enfants. Jamais il n'a pu gagner de quoi vivre. Ses livres se vendaient à 1000 exemplaires seulement, c'est-à-dire ça couvrait les frais d'imprimerie, quoi. Personne n'en parlait dans la presse. On redoutait trop Léon Blois. Ses ennemis pratiquaient avec succès la conspiration du silence. Il a pu collaborer quelque temps à quelques journaux. Il n'a jamais réussi à s'y créer une situation stable. Dans ce temps-là, mais dans les salles de rédaction, il y avait la coutume des duels. C'était fortement condamné par l'Église. Alors en 1894, lors d'un incident, Léon Blois a refusé tout net de se battre. Il a été immédiatement congédié, imaginez. Il y a 100 ans, 1894. Deux de ses enfants, André et Pierre, sont morts de misère, en bas âge. Les deux autres, Véronique et Madeleine, n'ont pas toujours été assurés de manger chaque jour. Léon Blois s'est résolu de même à mendier, à demander à ceux qui avaient de l'argent et des rentes de prélever un peu de leur superflu pour lui permettre de mener son œuvre à bien. Et loin d'implorer, il exigeait Et quand la somme lui paraissait ridicule par rapport à la fortune de celui qui était son bienfaiteur, ben là, il protestait, il gênait pas, il se proclamait bien haut un mendiant ingrat. C'est en deux volumes, le mendiant ingrat. C'est publié au Mercure de France, vous savez. C'est dans des grandes maisons d'édition. Et le mendiant ingrat, c'est le journal de cet auteur, de 1892 à 1895. Oh, c'est passionnant à lire, c'est bouleversant. Bouleversant. Et alors, il estimait ne devoir aucune gratitude à une société qui le laissait mourir de faim, alors qu'elle faisait gagner des millions à Émile Zola, à Anatole France, à d'autres empoisonneurs de multitudes, disait-il. Et par-dessus tout, il en voulait aux catholiques, qui faisaient la fortune de Bourget, de Paul Bourget, de Joris-Karl Huysmans, de François Copé, et puis qui méprisaient ses livres. Il n'en voulait pas à Bourget, à Huysmans et à Copé, vraiment, mais c'est les catholiques qui achetaient leurs livres, mais ils n'achetaient pas les siens. Et pourtant, ils produisaient des œuvres magnifiques, hein, que l'on a découvert finalement avec admiration, le salut par les Juifs, la femme pauvre, sueur de sang, le sang du pauvre. Ah, le sang du pauvre, c'est un plaidoyer bouleversant en faveur des prolétaires qui sont victimes de ce capitalisme athée dont l'Église parle avec mépris. Ne se gêne pas pour l'attaquer. Il écrivait aussi l'exégèse des lieux communs, c'est un recueil de commentaires satiriques. Là, la bourgeoisie radicale, aussi bien que la bourgeoisie bien-pensante, écope. Ils écopent durement, elles écopent durement. Et il a composé au fil des jours son journal, dont je viens de vous parler, où l'on trouve certaines de ses plus belles pages. Il y a des prières à la Vierge, des envolées mystiques, qui surgissent au milieu d'histoires de propriétaires, de huissiers, de concierges, de bonnes ivrognesses et des prêtres détestables. Quelques ans de captivité à Cochon-sur-Marne aussi, c'est le plus célèbre de ces recueils. Il n'y a qu'une tristesse, a écrit Léon Blois. Écoutez bien ça. Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Si vous vous souvenez de cette phrase aujourd'hui, c'est ça. C'est la belle phrase de Léon Blois. Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Il a écrit ça à la fin de La femme pauvre. Toute sa vie, il a eu l'ardent désir de devenir un saint. Et c'est avec désespoir qu'il se retrouvait jour après jour un pauvre homme irritable, et qui se laissait aller à toutes les insultes et aux rêveries les plus abracadabrantes, selon l'humeur du moment. Et cet écrivain, à qui on a fait tant de fois le reproche d'orgueil, était, au fond de lui-même, tout le monde en est sûr, tout le monde qui l'a connu, était très humble. C'est vrai que ces gens-là sont souvent très humbles, on les prend pour des orgueilleux, mais c'est pas nécessairement vrai. C'est en toute sincérité, d'ailleurs, qu'il a écrit des lignes qui forment comme son testament spirituel. Il dit « Je n'ai pas fait ce que Dieu voulait de moi, c'est certain. Oh, j'ai rêvé au contraire ce que je voulais de Dieu. Et me voici à 68 ans, n'ayant dans les mains que du papier. » Il me semble que quand un écrivain est capable d'écrire des lignes comme ça, c'est qu'il est au seuil de la sainteté. Ce début du 20e siècle, eh bien, une soutane s'effarouchait, puis elle effarouchait les gens. Une soutane, ça intimidait le monde. Et ceux que Dieu appelait à se convertir avaient souvent des préjugés à l'égard du clergé. Encore comme ça aujourd'hui. Aller trouver directement un prêtre, ça semblait difficile. Mais aller voir Léon Blois, c'était tout autre chose, et on pouvait prétexter qu'on allait le voir pour des raisons littéraires. Et Dieu s'est servi de lui. Comme il s'était servi de Barbé de Révillé pour l'attirer, lui, le jeune Léon Blois, à la foi et à l'Église. Il a alors, Léon Blois, en vieillissant, attirait beaucoup de jeunes. Quand ces convertis deviennent des chrétiens célèbres, on en retient les noms. Qui? Jacques Maritain. Rail Samaritain, c'est fantastique. C'est lui qui les a amenés à l'Église. Lui, Jacques Maritain, et sa femme juive, Rail Samaritain. C'est formidable, il était un instrument efficace. Ce n'était plus le jeune maladroit de jadis qui écrivait à ses amis deux espèces de lettres monumentales. Non, c'était un homme aux cheveux blancs, une énorme moustache blanche, trapu, un homme tassé, un peu voûté. Il y avait les beaux yeux bleus, à fleur de tête, qui devenaient soudain noirs quand on prononçait devant lui le nom d'un personnage qu'il n'aimait pas. Oh, ses yeux étaient très doux quand il se posait sur ceux qui venaient le trouver. Pour qu'il les aide à voir clair et découvrir la vérité. Il avait tiré la leçon de nombreux échecs. Il s'était souvenu de sa propre susceptibilité, de ses difficultés, de ses réticences quand il hésitait, jadis, à revenir à la religion catholique. C'est pourquoi, au déclin de sa vie, il était devenu un maître dans l'art de toucher puis de ressusciter les âmes. Et Léon Blois communiait, récitait le Bénédicité avant les repas. Il méditait, il parlait de la communion des saints, des âmes du purgatoire. Oui, des âmes du purgatoire. Puis il est mort un 2 novembre. Il parlait du jugement dernier, il parlait des mystères. En homme pour qui ces choses ne sont pas des idées abstraites, là, des formules de manuel. Mais pour lui, c'était la seule et unique réalité qui aidait ainsi à toucher du doigt. Et on comprend que Léon Blois ait réussi là où beaucoup de prêtres échouaient régulièrement. Au lieu de perdre son temps, écoutez bien ça, à discuter des arguments de l'athéisme, les problèmes posés par la science, par la théorie de l'évolution, les problèmes de l'Inquisition, il se plaçait d'emblée sur le plan mystique. Il écrivait à sa fiancée, la jeune Danoise, tu vas entrer dans un monde nouveau pour toi. Ne t'étonne de rien, ne tremble pas. D'ailleurs, pourquoi craindrais-tu, si tu es docile à la grâce? Je t'annonce avec certitude des joies si profondes, si parfaites, si pures, si lumineuses que tu croiras en mourir. Non seulement il convertit, mais encore il réveille, il ressuscite les bons chrétiens endormis, ceux qui, au creux de leur sécurité matérielle, oublient que la religion du Christ, c'est celle du pauvre par excellence, et que le monde doit finir un jour, et Léon Blois utilise sa tactique de choc. Ça consiste à injurier, à se moquer férocement et à asséner brutalement tout à coup une de ces terribles formules, comme « tout homme qui n'est pas un saint » est un cochon. C'est incroyable. On comprend qu'il effarouche les dévotes. On comprend que le clergé s'éloigne. Il n'avait pas l'intention d'écrire des phrases comme ça dans une église. Et Léon Blois est mort, donc, le 2 novembre 1917. Il avait espéré, tout au long de sa vie, mourir martyr. Dieu le lui a refusé. Il est mort humblement dans son lit, à 71 ans, comme un bon ouvrier. Il est excellent qu'au début du 20e siècle, comme à la fin du 20e siècle, on se souvienne de ce début, où il s'est trouvé un homme pour rappeler aux catholiques endormis les derniers articles du credo, qu'est-ce que c'est le jugement, la fin du monde, la communion des saints, la résurrection de la chair, pour donner le désir, quoi, la nostalgie de la vie éternelle qui nous attend, la vie dans cette Jérusalem céleste qui est le triomphe de l'Église dans l'éternité. Ah, le clergé ne parle pas beaucoup de ça. Ce sont des points délicats à traiter. Ça reste enseveli dans les bibliothèques de séminaires. Il a fallu un converti excessif qui voulait aller jusqu'au bout, comme la plupart des convertis, et Léon Blois a en quelque sorte forcé la main à l'Église pour son plus grand bien. Et comme après lui, Paul Claudel, il a crié bien haut le scandale des catholiques ignorants de l'Écriture sainte. Le scandale des catholiques qui communient seulement 4 fois par année aux grandes fêtes, en dépit des paroles formelles de notre Seigneur Jésus et des exhortations des papes. Léon Blois a piétiné le vieux jansénisme qui glaçait l'atmosphère chrétienne. Il a redonné la vie aux âmes. Léon Blois n'est devenu ni un homme d'Église, ni un père de l'Église. Il disait qu'il est déjà assez difficile d'en être le fils. C'est Peggy plutôt qui disait ça. Il n'est pas devenu un savant, ni un artiste. Il a été tout simplement un chrétien converti, qui a su garder jusqu'à 71 ans la flamme, le courage et l'émerveillement du converti. Et c'est plutôt à quelques prophètes de l'Ancien Testament qu'il ferait penser. Plus que jamais, Léon Blois est un contemporain. Et si vous voulez lire dans votre bibliothèque ou à la bibliothèque publique, les grandes amitiés de Reich Samaritain, vous trouverez une bonne cinquantaine de pages dans le dernier chapitre. Ce sont les dernières années de Léon Blois. C'est superbe, c'est très beau de Reich Samaritain. Je vous laisse en pensant que quand quelqu'un meurt, qu'on fasse dire des messes, Je vois souvent dans le journal que l'on demande de l'argent pour le cancer, et ça, c'est très bien, c'est très très bien. Demandons donc aussi des messes pour les âmes du purgatoire. N'oublions pas l'Église qui nous a donné la foi. N'oublions pas nos prêtres qui ont besoin de notre secours et de ses honoraires, oui. Mais surtout, n'oublions pas nos morts qui ont besoin de messes. J'en fais dire constamment pour mon fils et pour mes parents.